Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
À la une de cette édition d'information, les gouvernements soumis n'ont attendu ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale pour la présentation de son programme en vue de son investiture. Les rapporteurs Jacques Joly confirment ces rendez-vous après la réunion du bureau tenue ce lundi en prévision de l'investiture du nouveau gouvernement. Escalade de la violence dans l'est du pays, les coordonnateurs humanitaires expriment sa vive inquiétude face à cette situation. Bruno Lemarquis, qui s'exprime au nom de la communauté humanitaire, rappelle l'importance du respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et de la protection des civils. L'invité de ce journal est Fatih Nzi Hassan, directrice d'Oxfam Afrique. À mission en Nord Kivu, elle a visité les trois camps des déplacés des Rusayo en territoire des Nyiragongo. Elle plaide auprès des autorités partenaires de la RDC de prioriser la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC dans leurs agendas. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement souminois est attendu ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale pour la présentation de son programme en vue de son investiture. Le rapporteur Jacques Joly a confirmé ses rendez-vous après la réunion du bureau tenue ce lundi en prévision de l'investiture du nouveau gouvernement. Jacques Joly a précisé qu'un débat sera organisé et l'opposition, bien que minoritaire, aura le temps suffisant des paroles afin de permettre que toutes les questions de gouvernance soient abordé. Jacques Joly est au micro de Michel Kifindangoy.
Madame la Première ministre a déposé le programme du gouvernement conformément à l'article 90 de la Constitution. Mardi, ce programme sera soumis au débat et nous espérons qu'à l'issue de ce débat, il y aura une motion d'approbation conformément à cette même disposition constitutionnelle et à l'article 24 de notre règlement intérieur pour que le gouvernement soit investi et s'occupe des grands défis qui l'attendent pour le plus grand bien du peuple congolais. Donc l'organisation du débat a fait l'objet, n'est-ce pas, de cette réunion. Demain, les interventions seront coordonnées au niveau de différents regroupements politiques. À l'issue de ces interventions, la Madame la Première ministre pourra répondre aux questions et nous espérons que, maîtrisant son programme, elle verra si elle peut répondre directement demain.
Pour rappel, Judith Souminois a déposé son programme quinquennal samedi auprès du président de la Chambre basse Vital Kamerhe, qui l'a immédiatement distribué à tous les députés en vue de faciliter les débats généraux de tout à l'heure à 13h. Michel Kifindangoy revient sur les grandes lignes de ces programmes.
Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République intitulée « Allons-y, unité, sécurité et prospérité », estimé à un coût de plus de 92 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Ce programme vise à matérialiser les 6 promesses du chef de l'État. Il s'agit de créer plus d'emplois, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Congolais, pacifier le pays et mieux protéger sa population, construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, assurer plus d'accès aux services de base comme l'enseignement, les soins de santé, l'eau et l'électricité, ainsi que renforcer l'efficacité des services publics. Toutes ces actions seront guidées par 4 principes directeurs, à savoir la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale, ainsi que de la participation citoyenne, la réussite de la transition de la RDC vers une société à haute intensité technologique et l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité.
Situation sécuritaire à l'est du pays, les coordonnateurs humanitaires expriment au nom de la communauté humanitaire sa vive inquiétude face à l'escalade de la violence dans l'est du pays et rappellent l'importance du respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et de la protection des civils. Dans un communiqué de presse publié ce lundi à Kinshasa, Bruno Lemarquis déclare, je cite, « Si cette violence persiste, elle risque d'aggraver encore davantage la situation humanitaire déjà précaire » dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, où plus de 900 000 personnes nouvellement déplacées ont été enregistrées entre janvier et avril 2024, portant le nombre total de déplacés dans ces trois provinces à plus de 5,6 pour un total de 7,3 millions dans les pays. Fin des citations. D'autres détails avec vous, Grâce Hamzati.
Selon les coordonnateurs humanitaires, au cours des 5 premiers mois de cette année, plus de 470 personnes ont été tuées dans la province de l'Ituri, notamment dans des violents incidents contre les populations civiles par les groupes armés dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Aussi, au moins 57 personnes ont été tuées lors d'attaques perpétrées par les forces démocratiques alliées ADF dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, du 3 au 8 juin 2024, ajoute-t-il. Toujours dans le Nord Kivu, la crise du M23 a fait de nombreuses victimes depuis la reprise des affrontements en février 2024. En raison de l'intensité des combats, plusieurs organisations humanitaires ont dû suspendre leurs opérations à Kanyabayonga au Nord Kivu, affectant ainsi plus de 45 000 personnes déplacées depuis la deuxième quinzaine de mai, poursuit le communiqué. Malgré les contraintes, la communauté humanitaire a réussi à apporter une assistance nécessaire à plus de 3,5 millions de personnes en RDC entre janvier et avril 2024, renseigne les documents. Il est temps que tous les acteurs impliqués, ainsi que ceux qui ont une influence sur les parties au conflit, travaillent ensemble pour une désescalade immédiate des violences et un retour à un dialogue politique afin de trouver une solution durable au conflit. Il est également important d'augmenter les efforts en vue de promouvoir des solutions durables pour les personnes déplacées dans les zones où les conditions sont réunies, déclare Bruno Lemarquis.
Et puis, au Nord Kivu, une équipe du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, est en mission depuis ce lundi à Beni. C'est pour justement identifier les victimes des violences liées aux différents conflits dans la région en vue des possibles réparations. Nicole Linda Mukanire, qui conduit la mission, explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes ici à Beni pour faire l'identification de camps, de blocs, savoir l'effectif de déplacés qui sont dans des camps et dans des blocs ici à Beni, combien de camps il y a à Beni dans des sites, et aussi savoir quelle est la mesure de sécurité qui sont mises en œuvre pour cette population déplacée. Après l'identification de camps et des sites, nous allons faire l'identification de toutes les victimes qui sont ici à Beni. Après l'identification des victimes, nous allons passer à une autre étape qui est la réparation de victimes. Il y a deux sortes de réparations. Il y a la réparation collective et la réparation individuelle. Et il y a aussi l'autre mission du FONAREV qui est l'accès à la justice. Donc donner aux victimes l'accès à la justice. Vous savez que ce n'est pas vraiment facile pour une victime d'avoir sa justice, ce qu'elle a vraiment besoin. Alors nous allons l'aider à avoir accès à la justice. À tous les déplacés, je voulais leur dire qu'ils ne sont plus jamais seuls et on va les accompagner dans tout ce qu'ils auront besoin.
Nord Kivu toujours, les écoles privées de Goma, membres de l'Association nationale des écoles privées agréées à Sonepa, ont apporté leur soutien aux élèves déplacés de Sake et ses environs. Ces élèves qui vivent dans des camps autour de Goma ont reçu une aide en non-vivre et en vivre. La distribution de cette assistance constituée notamment de vêtements, souliers, du savon et de quelques vivres a eu lieu samedi 8 juin. Cette initiative menée en collaboration avec les parents d'élèves s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des écoles privées agréées célébrée le 31 mai de chaque année en RDC. Pour Jules Kihuo Ndonga, président de la SONEPA, il était important de marquer cette journée en apportant un soutien concret aux enfants les plus vulnérables. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Nous avons dans l'ensemble collecté des vivres et de nos vivres et nous avons constitué au moins des camions remplis pour venir rencontrer nos collègues chefs d'établissement et élèves qui ont fui leur maison venant du territoire de Masisi. Et comme ils sont en difficulté, comme nous le savons tous, et nous ne nous sommes pas retirés vis-à-vis des difficultés traversées par nos collègues. C'est ainsi que nous avons décidé par cette occasion où nous avons toujours commémoré une journée nationale des écoles privées agréées, dénommée Junepa. Et nous, on a pensé, au lieu de boire et manger, fêter, il fallait venir compatir avec celles-là qui souffrent dans les cas. C'est ainsi que les élèves des écoles privées agréées et leurs parents, et nous, responsables des écoles privées agréées, avons mobilisé tous ces dons que nous venons de remettre devant témoins, devant les élèves et devant leurs enseignants et chefs d'établissement qui sont dans une situation difficile.
Il faut noter que la distribution de ces dons aux élèves déplacés a commencé effectivement dimanche. Bouira Bakulu Jimmy, directeur de l'école primaire Matcha de Sake, l'une des écoles bénéficiaires, salue cette assistance qui vient soulager ses élèves qui ont tout laissé derrière eux lorsqu'ils ont fui la guerre. Dans les territoires de Calais, au sud Kivu, un policier a été assassiné dimanche dernier à Tushunguti, dans les territoires de Calais, par son compagnon d'armes. L'incident s'est produit en groupement des Iralo dans la chefferie de Buhavu, aux environs de 19h30. Les deux policiers montaient la garde ensemble, mais les motifs de leurs différends n'ont pas été révélés. Jean Kassami pour les reportages.
Le coordinateur du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais qui livre l'information demande au tribunal militaire de garnison de Bukavu d'organiser des audiences foraines pour juger, condamner et éclairer la lanterne de la population sur le mobile de cet acte criminel. Delphine Birimbi.
Un élément de la PNC Ziralo a été assassiné par balle par son collègue au bureau de la PNC pendant que tous deux étaient à la garde. Utilisé par le commandant PNC Tushunguti, demandant au tribunal militaire de garnison de Bukavu d'organiser des audiences dans le territoire de Calais pour nos éléments jugés et condamnés au Bedi et les autres malfaiteurs des assassinats, tortures et arrestations arbitraires à l'endroit des personnes civiles, mais également vérifier la régularité du défait et les malfaiteurs au sein de la police nationale congolaise.
Ces meurtres interviennent dans un contexte particulier émaillé des cas d'assassinats, de tortures et d'arrestations arbitraires à Changé, Numbi, Nyamasasa et Bushushu dans le même territoire de Calais au site Kivu, voisin de celui de Masisi au nord Kivu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, une parade à l'intention de toutes les unités de la police de la garnison de Kindu a été organisée ce lundi 10 juin par les commissaires divisionnaires de la PNC Maniema. Objectif, rappel à l'ordre sur la discipline au sein des unités. Les commissaires divisionnaires Palanga Nawej Elvis a saisi cette opportunité pour instruire les commandants des différentes unités de Kindu de pouvoir décentraliser les services pour permettre à chacun d'exercer les tâches qui lui sont confiées. On écoute à ce sujet, le capitaine Michel Lubunda Labaka, porte-parole de la police nationale congolaise du Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
La parade d'aujourd'hui avait comme objectif les rappels à l'ordre sur la discipline. Le commissaire provincial a demandé aux policiers de la garnison de Kindu d'être disciplinés car la discipline est la mère des armées. À l'occasion de la dite parade, le commissaire provincial a demandé aux policiers et aux commandants surtout de pouvoir décentraliser les tâches au niveau de leurs services pour permettre le bon fonctionnement des activités de la police au sein de leurs unités. La répétition n'est nulle part. Le commissaire provincial a constaté que certains policiers se promènent en tenue, même en dehors des heures de service. Voilà pourquoi ils voulaient rappeler les policiers à l'ordre que la tenue, c'est un instrument de travail. On ne peut la porter que si on est en service. Et que si le policier est en repos, il doit s'abstenir de porter la tenue parce que la population se sent frustrée. Décentraliser les services dans l'entendement du commissaire provincial, c'est que chaque commandant et ses adjoints doivent s'organiser pour l'abonnement de leur unité. Que chaque titulaire puisse reconnaître que ses adjoints doivent aussi travailler parce qu'on ne peut pas centraliser le travail de la police, ce qui ne sera pas une bonne marche pour les services.
Autre information, les journalistes sont appelés à sensibiliser les parents et les communautés pour qu'ils puissent faire vacciner les enfants de 0 à 5 à 9 mois contre la poliomyélite lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination qui aura lieu du 13 au 15 juin 2024 en RDC. Le programme élargi des vaccinations PEV a lancé cet appel lors d'un briefing avec la presse ce week-end. On écoute à ce sujet le docteur Fabrice Mawa, chargé des opérations de vaccination au sein du comité des opérations d'urgence contre la polio, coupe au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique et de la prévention, organise une campagne de vaccination des masses contre la poliomyélite. Et en date du 13 jusqu'au 15 juin 2024, ça sera dans toutes les 519 zones de santé qui regorgent le pays. Et cette intervention sera couplée ou intégrée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole. Déjà, les préparations sont en cours. Nous sommes à 6 jours. Nous avons fait appel au 4e pouvoir, que vous êtes les journalistes, les dames et les hommes des médias, pour nous aider à sensibiliser les communautés, à sensibiliser les parents d'enfants, les tuteurs d'enfants, pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination en faisant vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois. Et aussi, ils vont faire administrer la vitamine A ainsi que l'albendazole. Tout cela, c'est pour le bien-être de leurs enfants, parce que vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger.
Il faut souligner que les enfants de 0 à 15 ans de la province du Tanganyika seront concernés par cette campagne, les statistiques ayant montré une prévalence des cas chez les enfants de cette tranche d'âge.
Actualité internationale.
Au Gabon, 10 mois après les coups d'État, Albert Ondo Ossa demande qu'on publie les vrais résultats de l'élection présidentielle d'août 2023. Après un scrutin entaché de manquements, les autorités avaient proclamé le président Ali Bongo vainqueur, entraînant un coup d'État militaire et sa chute. Beaucoup estiment qu'Albert Ondo Ossa serait le véritable vainqueur de l'élection. Les professeurs d'économie ne s'étaient pas exprimés depuis septembre dernier, même s'il a participé à une conférence de presse collective la semaine dernière. Il dénonce ce qu'il considère comme des dérives autoritaires de la transition en cours qui doit s'achever en août 2024.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Fatih Ndi Hassan, directrice d'Oxfam Afrique, en mission au Nord Kivu. Elle a visité les 3 camps des déplacés des Roussailles en territoire des Niragongo. Au terme de sa visite, elle a plaidé auprès de la communauté internationale ainsi que d'autres partenaires de la RDC de prioriser la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC dans leur agenda. Madame Fatih Ndi Hassan répond aux questions de Gabriel Wamenya.
Bonjour madame.
Bonjour.
Madame Fatih, vous êtes au Nord Kivu, dans la ville de Goma. Nous voulons savoir concrètement quel est l'objet de votre mission dans cette province secouée par la guerre.
Comme vous le savez, il m'a paru nécessaire, après ma prise de fonction il y a 1 an et demi, de rendre visite à nos équipes qui sont sur le terrain. Nous avons ici en RDC une équipe de plus de 160 personnes qui travaillent majoritairement dans les 4 provinces de l'Est. Donc j'ai voulu m'imprégner de leur réalité, de leurs défis et aussi appuyer leur agenda de plaidoyer pour leur permettre de mieux soutenir les communautés auxquelles nous apportons modestement notre aide.
Nous sommes présentement dans les sites des déplacés des Roussailles que vous venez de visiter. Quel a été votre constat?
Mon constat, c'est que c'est un camp déjà très grand, plusieurs centaines de milliers de personnes, et que les besoins ne font que grandir. L'instabilité s'est accrue, ce qui se traduit par des mouvements de plus en plus intenses de population. Donc c'est un camp qui accueille sans cesse de nouveaux déplacés internes. C'est un camp pour lequel il y a beaucoup de mobilisation des organisations humanitaires et également le soutien des autorités. Le rythme de croissance des besoins dépasse les capacités aujourd'hui en œuvre.
Et que pense faire Oxfam pour essayer d'aider, de pallier tant soit peu aux difficultés de ces personnes déplacées?
En ce qui concerne l'aide d'Oxfam, nous continuons à appuyer les déplacés internes avec des travaux d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Nous fournissons également du soutien en termes de protection des civils, notamment pour les femmes victimes de violences. Et nous appuyons également les déplacés avec de l'aide immédiate en termes de produits de première nécessité. Donc nous avons besoin d'encore plus de soutien de la communauté internationale pour nous permettre de continuer à soutenir les déplacés internes dont le nombre ne fait que grandir.
À cette occasion, vous avez rencontré les comités des femmes des déplacés. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit exactement?
Les femmes, membres des différents comités que les déplacés internes ont organisés, nous ont assuré de leur satisfaction quant à l'aide apportée par Oxfam. Elles ont aussi exposé leur situation, notamment en termes de violences basées sur le genre, avec des histoires extrêmement personnelles et poignantes, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension encore plus fine de la réalité de la vie d'une femme, mère, dans un camp de réfugiés, dans un camp de déplacés, qui n'arrive pas à garantir sa propre sécurité et la sécurité de ses enfants, notamment de ses filles. Ça a été pour nous l'occasion de rappeler notre plaidoyer que nous avons porté à différentes autorités pour la démilitarisation des camps de déplacés internes, qui pourraient apporter un peu plus de soulagement vis-à-vis de cette situation.
Qu'est-ce qu'elles peuvent espérer après votre passage ?
Ce qu'elles peuvent espérer, c'est un engagement renouvelé et renforcé pour défendre la cause de la République démocratique du Congo, de ses déplacés internes et des femmes en particulier dans toutes les instances où nous avons la voix et où nous prenons la voix pour vraiment continuer à plaider pour la paix, un cessez-le-feu immédiat pour permettre en tout cas d'avoir un soulagement à ce niveau-là.
Oxfam appuie les projets d'assainissement en eau potable dans les sites de Roussayo. Et c'est pour vous suffisant avec l'arrivée des nouvelles vagues de déplacés?
Ce n'est pas suffisant avant l'arrivée de ces nouveaux déplacés internes. Donc il nous faudra mobiliser encore plus de ressources. Et nous appelons vraiment la communauté internationale à prioriser la crise dans l'est du Congo. Vous savez que c'est un pays qui compte 6,9 millions de déplacés internes. C'est une des plus grandes crises de déplacés internes du monde. Et donc nous avons besoin vraiment que ce sujet revienne en haut de l'agenda de la communauté internationale pour que les financements puissent venir appuyer les actions d'Oxfam et de toute la communauté humanitaire.
Madame Fatih, je vous remercie.
Merci à vous.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information sur Radio Okapi. Mise en onde signée Debs Vita, supervision et coordination Alain Rung Mushinj. Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.